franceinter.fr. Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter.
Bonjour François Dubé.
Bonjour.
Professeur de sociologie à l'Université de Bordeaux, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes du collège. Vous avez dirigé en 99 le rapport Le Collège de l'an 2000 qui avait servi de base à la réforme orchestrée par Ségolène Royal. Vous êtes l'auteur d'un essai paru récemment au Seuil, La préférence pour l'inégalité, où vous tentez d'expliquer pourquoi, alors que nos démocraties érigent le principe d'égalité en boussole de nos valeurs, nos sociétés choisissent l'inégalité. On est au cœur d'un des débats qui a suivi les attentats de Paris et des déclarations du président Hollande hier qui a beaucoup parlé d'égalité. On voit donc que la boussole ne change pas de cap, mais avant de voir avec vous ce qu'il faudrait pour que cette égalité abstraite s'incarne dans les faits, dans les quartiers, dans nos écoles, expliquez-nous ce qui vous fait dire que nous avons choisi l'inégalité.
Bon, la formule est peut-être excessive, mais en tout cas nous avons choisi de ne plus nous battre pour l'égalité. Quand vous regardez l'histoire du siècle passé, bon, il y a eu des conjonctures économiques favorables, notamment pendant les Trente Glorieuses, mais dans l'ensemble, les sociétés ont choisi, les sociétés industrielles démocratiques ont choisi de réduire les inégalités. Elles ont choisi de développer les transferts sociaux, elles ont choisi de réduire l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, et sur 80 ans, il y a beaucoup, beaucoup réussi. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée considérablement aux États-Unis, beaucoup moins chez nous, mais quand même aussi. Et on infère en général cette tendance au capitalisme international. C'est pas notre faute, c'est la globalisation, c'est l'économie, c'est voilà. On serait victime des inégalités, ce qui est largement vrai, probablement vrai. Après tout, nos travailleurs sont en concurrence, les moins qualifiés avec des travailleurs aussi peu qualifiés, payés beaucoup moins cher ailleurs. Mais je crois que le goût de l'égalité s'est cassé dans la société. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, nos pratiques sont devenues des pratiques inégalitaires. Alors on peut prendre des exemples évoqués hier dans la conférence de presse. Après tout, les processus de ségrégation urbaine se sont creusés. La ségrégation urbaine, simplement, qu'on ne veut plus vivre avec des gens qui ne sont pas comme nous. Et d'ailleurs, on va dénoncer des ghettos, mais que nous fabriquons d'une certaine manière, consciencieusement, chaque fois que nous prenons la décision de déménager. Si l'on prend l'école, l'école est très paradoxale. En France, depuis 50 ans, on peut dire que toutes les politiques scolaires sont égalitaristes. Collège unique, implantation des établissements sur le territoire, examens nationaux, des bourses, des aides. On a voulu créer de l'égalité. Sauf que les acteurs à l'école ont plutôt intérêt à l'inégalité. C'est-à-dire que, dès lors que je suis convaincu que l'avenir de mes enfants est lié au diplôme qu'ils auront à 17 ou 18 ans, la valeur des diplômes qu'ils auront dépendra de la valeur des diplômes que les autres auront. Et donc, même si je suis favorable à l'égalité de tous, je suis très favorable à l'inégalité des miens. Ce qui fait d'ailleurs que l'appel hier du président à créer de la mixité scolaire et de l'égalité scolaire, ça ne sera pas simple. Parce que d'une certaine manière, nous avons individuellement intérêt à fuir les établissements les plus difficiles et à chercher les diplômes les plus rares, les plus sélectifs, etc. On voit bien, par exemple, qu'aujourd'hui, et Thomas Legrand parle souvent, il y a cette idée de la chute des classes moyennes, à laquelle je crois très très peu, moi, au thème du déclassement des classes moyennes. Les vrais déclassés, aujourd'hui, c'est les ouvriers non qualifiés qui sont sortis, qui ne reviendront pas. Mais ce thème-là fait qu'on défend toutes les positions que l'on occupe au nom de la petite inégalité qui nous est bénéfique. Alors, depuis un mois, nous vivons dans une émotion solidaire, nationale, égalitariste, c'est bien. Ça ne va pas durer. Et jusque-là, en tout cas, on avait plutôt des bonnets rouges, des pharmaciens, des notaires, des syndicats professionnels, qui sont d'ailleurs toujours là, et je dirais chacun d'entre nous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, de mon point de vue, c'est que
C'est l'idée de fraternité qui s'est effondrée.
Ce qui s'est effondré, c'est l'idée de solidarité. Ouais. C'est que, pour vouloir l'égalité des autres, c'est-à-dire pour payer des impôts pour des gens que je ne connais pas, il faut que je m'en sente proche. Et si, de manière imaginaire, de manière fantasmée, il faut que je me sente proche parce que c'est la même nation, parce que nous sommes des travailleurs, parce que, peu importe, c'est des romans de la démocratie et de la nation. C'est des romans, c'est des fables. Mais on y croit. Bon. Et quand ça se défait, Eh bien, pourquoi paierais-je pour des gens que je ne connais pas et qui ne le méritent pas? Il y a des sondages très inquiétants, par exemple. On explique de plus en plus aujourd'hui le chômage et la pauvreté par la responsabilité des chômeurs et des pauvres. C'est leur faute. Pourquoi payerais-je pour des gens qui ne méritent vraiment pas qu'on les aide et en plus qui méritent ce qui leur arrive? Il y a un renversement qui est en train de se créer. Alors, tout n'est pas perdu. Mais ce que j'ai essayé de dire, c'est que vouloir l'égalité des autres suppose de s'en sentir solidaire, on va dire, pour ne pas utiliser le mot fraternel qui a des connotations de théologie catholique et républicaine. Voilà. Mais.
C'est l'une des trois composantes. C'est une des composantes de la devise de la République.
En plus, c'est une des composantes de la solidarité. Il y a une dimension imaginaire dans la solidarité qui est évidente. En tout cas, il faudrait remettre en marche cette espèce de sentiment diffus qui fait que nous sommes liés, que nous dépendons les uns des autres. Au fond, que l'égalité des autres nous intéresse. Qu'une certaine égalité est plutôt une bonne chose pour chacun d'entre nous. Or, je crois que la tendance s'est renversée, et elle ne s'est pas renversée uniquement en France, il faut bien le constater, elle s'est renversée bien plus brutalement en Grande-Bretagne et aux États-Unis il y a 35 ans.
Le mal est très profond, si on vous entend bien, François Dubet. On va y revenir tout à l'heure en deuxième partie. Simplement, je vous présentais tout à l'heure comme un spécialiste de l'école et du collège. Que faudrait-il, selon vous, pour que cette idée d'égalité s'incarne dans nos écoles davantage qu'elle ne l'a été ces dernières décennies?
Alors, le paradoxe de l'école française, on le connaît, c'est que l'école française est plus inégalitaire que ce que supposeraient les inégalités sociales en France. Pour donner un exemple simple, la société canadienne est plus inégalitaire que la société française et l'école est moins inégalitaire. La France est plus inégalitaire qu'elle devrait l'être. Donc notre école en rajoute aux inégalités.
Pourquoi ?
Nous sommes un des pays... Alors, pour un tas de raisons. Il y a d'abord l'idée que chez nous, l'école est commandée par la production des élites. Nous avons cette vieille croyance qui fait que ce sont les élites produites par l'État qui sauveront la nation. Bon. Et dès lors, dans chaque élève, sommeille un polytechnicien. Et à partir de là, évidemment, je dois faire la classe comme s'il était polytechnicien. Et les autres vont s'égrener comme des coureurs d'un peloton qui grimpent le Tourmalet. Bon, ça, c'est une tradition très, très difficile à battre en France. À dire, la priorité, c'est les élèves faibles, c'est pas les élèves forts, si je peux me permettre. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il explique probablement, cette tendance, c'est que nous avons une confiance excessive dans les diplômes. C'est-à-dire que dès lors que nous pensons que le diplôme est le seul viatique qui permet d'entrer dans la société, la concurrence sur le diplôme devient extrêmement forte et est totalement inégalitaire. Si je suis convaincu que la mention au bac et la filière du bac tient la totalité du destin de l'individu, je me conduirai comme un sauvage, si je peux me permettre, pour que mes enfants l'obtiennent. Donc nous avons des caractéristiques de ce point de vue-là. Nous jugeons du système toujours du point de vue de ces sommets. Je prends un exemple très simple, qui moi me trouble toujours. Quand on veut critiquer en France l'absence d'égalité des chances, on raisonne sur 400 polytechniciens. C'est-à-dire qu'on dit il faudrait qu'il y ait des enfants d'immigrés à l'école polytechnique, ce que j'approuve totalement. Mais ça concernera 30 élèves. Mais le fait que 95% des élèves de certains lycées professionnels sont des enfants d'ouvriers non qualifiés, de chômeurs et d'immigrés ne pose jamais de problème en termes d'inégalité des chances. On regarde toujours
le sommet plutôt que la base.
Vers le sommet plutôt que la base. Et ça, c'est inscrit si lourdement dans notre histoire qu'il est très très difficile de le changer. Et d'ailleurs, quand on étudie, je dirais, des déclarations présidentielles comme celle d'hier, qui sont au fond plutôt sympathiques et généreuses,
et
mais du point de vue de ces cadres de pensée, on s'aperçoit qu'ils sont toujours là. On va éduquer à la citoyenneté, ce qui, pour un tas de pays, est une formule totalement obscure. La citoyenneté, ça s'éprouve, ça ne s'apprend pas comme la physique, etc. Donc, nous avons...
Enseigner le français dès 2 ans ?
Écoutez,
Je dis aux auditeurs qui n'ont pas l'image que vous faites une grimace d'accablement à l'énoncé de cette proposition.
Je n'ose pas croire. Non, c'est une rumeur qui se... C'est une rumeur folle qui se promène sur Internet.
Maternelle, j'ai dit 2 ans, mais c'est plutôt.
Alors, maternelle, c'est déjà à peine raisonnable, mais 2 ans, ça devient pervers.
Non, 2 ans, c'est la crèche, effectivement. François Dubé avec nous jusqu'à 9h05 et dans un instant avec les auditeurs de France Inter.